France Inter.
La main verte avec le WWF. Ensemble, agissons pour laisser une planète vivante. Rendez-vous sur www.fr.
Il y a encore de la rosée dans les jardins et la main verte d'Alain Baraton pour nous accompagner dans les potagers. Bonjour Alain.
Bonjour Amélie.
Vous répondez aux questions des auditeurs comme tous les week-ends.
Je vais faire de mon mieux.
Alors Daniel, il compte sur vous. Il nous a écrit, Daniel, il a un pêcher, résultat d'un noyau planté il y a 7 ans, donc ça fonctionne. Ce pêcher a eu beaucoup de fleurs en mars qui ont laissé la place à de nombreux fruits, mais beaucoup sont tombés et ça continue. Pourquoi ? Demande Daniel.
Et oui, prendre un noyau de pêcher, le mettre en terre, et bien quelques années plus tard, il y a un petit arbre. C'est d'ailleurs comme ça que le pêcher est arrivé jusqu'à nous. Petite précision, le pêcher, son nom botanique, c'est Prunus persica. On l'a trouvé en Perse. On en a donc déduit qu'il était originaire de Perse. Sauf que les guerriers, les nomades chinois, eux-mêmes mangeaient les pêches et jetaient les noyaux. Ce qui fait que de la Chine, le noyau est arrivé jusqu'en Perse. Là, on a trouvé l'arbre et on l'a baptisé ainsi. Alors, le pêcher est une plante délicate qui produit des fruits, mais qui a quelques exigences. Le pêcher déteste en période de fructification manquer d'eau et le pêcher a toujours peur de manquer de tout. Et quand la plante produit quantité de petits fruits et qu'il sait qu'il ne pourra pas les mener à terme, au lieu de souffrir, il préfère s'en séparer. Tout simplement donc, ce pêcher n'est pas en souffrance, il lui manque quelque chose. Quoi ? Peut-être de la nourriture dans le sol, peut-être de l'eau, peut-être d'espace. Toujours est-il qu'il se dit, si je laisse pousser tous mes fruits, je risque moi-même de ne pas avoir suffisamment de force pour les mener à terme, peut-être même en mourir. Donc, j'avorte de l'ensemble de mes plantes, de mes fruits, et nous verrons l'année prochaine.
On passe au message d'Evelyne. Elle écrit, j'ai un magnifique arbre à perruque. Faut-il couper les ramifications au bas du tronc ? Qu'est-ce que c'est un arbre à perruque ?
J'étais sûr que vous alliez me poser la question. C'est un très bel arbuste qui a des feuilles rouges et qui a des fleurs en grappes qui ressemblent vraiment à des perruques, d'où le nom arbre à perruque. Le véritable nom, c'est le cotinus. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le cotinus. C'est une plante de peu d'entretien, une plante qui se satisfait, là encore, d'un sol ordinaire, d'une exposition ordinaire. Oui, il est possible de couper les rejets qui partent de la base, mais la plante, elle, s'en fiche. Seul problème avec le cotinus, c'est que de temps en temps, et c'est d'ailleurs seul problème surtout pour lui, il meurt parfois sans aucune raison. Vous avez un pied dans votre jardin, il est magnifique, et puis l'année suivante, il est mort. On ne sait pas pourquoi, et on ne sait toujours pas pourquoi. Mais le cotinus est une plante qui, en général, ne réclame aucune taille pour être beau. Mais je vous rassure, c'est une très très belle plante, et c'est son vrai nom, arbre à perruque. La prochaine fois, on parlera peut-être de l'arbre à mouchoir.
Et pourquoi
il
pas.
Existe aussi.
Il existe aussi,
mais bien sûr.
Tiens donc. On passe à Jean-Paul. Lui, il a des soucis avec son chêne tricentenaire. Il présente des symptômes inquiétants, nous dit-il. Chute de grosses branches, cavités aux pieds, nombreux trous dans l'écorce et une prolifération de feuillage dans la partie basse du tronc et au départ des branches maîtresses. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner à Jean-Paul ?
Alors, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. Il est bon de se souvenir que les arbres vivent en périphérie de leur tronc. Petite explication à Amélie très rapide. Une plante se développe à l'extérieur, ce qui veut dire que la partie la plus récente d'un arbre est juste située sous l'écorce. Le cœur de l'arbre, le cœur du tronc, lui, est un bois qui ne vit plus, un bois qui est mort. Quand ce bois est totalement pourri, la plante n'en souffre pas parce qu'elle ne vit qu'en périphérie du tronc. J'espère que vous me suivez.
Oui, oui.
Quand vous avez du bois mort à l'intérieur, eh bien ce bois permet la pénétration des champignons, des bactéries, des insectes xylophages qui trouvent à l'intérieur de quoi se nourrir. Il n'est donc pas rare d'avoir des vieux chênes qui perdent des grosses branches, qui ont des trous dans le tronc, qui permettent à les insectes de venir s'y installer. Ce n'est pas parce qu'il y a des insectes que l'arbre souffre, c'est souvent parce que l'arbre souffre qu'il y a des insectes. Alors que faire ? Pas grand-chose. Avoir 300 ans aujourd'hui quand on est chêne et quand on connaît les conditions dans lesquelles on vit, urbanisation parfois outrance, pollution, travaux dans le jardin, racines endommagées, il n'y a pas grand-chose à faire. Dans ce cas précis, il n'y a rien à faire.
Faut l'abattre ?
Non, surtout pas.
On le laisse comme
ça.
On
ne le coupera que s'il y avait vraiment un danger. On arrête d'abattre tout et n'importe comment. On regarde, on tient à distance si éventuellement il y a un danger. On vérifie l'état du végétal et on se rappelle qu'il y a des professionnels qui peuvent donner un avis, voire une expertise sur la dangerosité ou non d'un vieux végétal.
Marie-Christine, elle a un citronnier avec des très belles feuilles, mais les citrons ne grossissent pas. Que faire ?
Exactement comme pour le pêcher. Manque d'eau, manque de place, manque de nourriture. Il y a l'une des trois raisons, j'en suis certain, laquelle je ne sais pas. Mais souvent, on a quantité de, on a des citronniers, on en est très content. Ils sont dans un pot, on les arrose, mais on se dit tiens, c'est bizarre, ça stagne en quelque sorte. Oui, mais la plante, elle n'a pas des racines qui vont chercher la nourriture en profondeur. Tout est dans un pot. Un agrume en pot doit toujours avoir de l'engrais. c'est obligatoire. Et les engrais naturels existent, je ne parle donc pas de gros mots, d'engrais naturels bien sûr.
Mais ça peut fonctionner donc quand même, hein,
ça
un citronnier.
Ça fonctionne.
D'accord. Alain vous demande, quelle maladie peut affecter un araucaria sous notre climat?
Connaissez-vous l'araucaria, Amélie?
Oui. Il y en avait chez mes parents.
Est-ce que vous aimez cet arbre?
Oui. C'est pas mon préféré, mais pourquoi pas.
Vous me rassurez, je le trouve d'une laideur épouvantable. Chacun est libre. Alors déjà, il y a plusieurs
styles. Bon, les goûts, la nature,
oui,
tout ça.
Il y a plusieurs styles d'araucaria. Il y a l'araucaria excelsa qui est très joli. Et l'araucaria araucana, celui auquel vous faites certainement allusion, également appelé désespoir des singes.
Ah oui.
Oui. Désarde.
Je comprends pourquoi vous ne l'aimez pas.
Non mais curieux qu'on appelle un arbre originaire
désespoir
du Chili ainsi.
Singes.
Car je crois qu'il n'y a pas de singe au Chili, donc c'est quand même
très
bizarre.
Sûr, ouais.
Oui, parce qu'il y a tellement d'épines et c'est tellement coupant toutes ces grosses feuilles, ces écailles, que même un singe n'oserait pas s'y aventurer.
D'accord.
Eh bien, il n'y a pas de maladie particulière. Je peux simplement vous dire que ça déteste la pollution, ça déteste l'eau stagnante. En dessous de moins 15 degrés, ça n'aime pas beaucoup. Il peut y avoir quelques petites attaques d'araignées rouges, mais à part ça, l'araucaria, et je le déplore, se plaît pratiquement partout.
Le problème de Serge, c'est les pucerons apparemment. Un de ses pruniers a toutes ses feuilles recroquevillées par les pucerons, les antipucerons systémiques étant interdits aux particuliers. Comment peut faire Serge pour un arbre de plus de 10 mètres de haut?
Vous voyez, où il faut être très prudent, c'est que Serge voit des feuilles qui s'enroulent et il dit « Tiens, il y a les pucerons, est-ce qu'il les a vus les pucerons ? Peut-il vraiment être sûr qu'il s'agit de pucerons et non pas de la rouille du prunier, une maladie cryptogamique qui provoque pratiquement les mêmes dégâts ? Admettons que ce soit des pucerons, et ben il suffira simplement de prendre un jet d'eau, de pulvériser le végétal pour les faire partir. On va les déranger, ils reviendront, on va renouveler l'opération et au bout d'un moment, ils ne viendront plus. Et s'il s'agit éventuellement de champignons, eh bien reprenons les bons vieux purins d'ortie, on n'en parle pas beaucoup.
Le purin d'ortie?
Eh ben oui, on fait macérer des feuilles de purin, on pulvérise. Ça pue, c'est épouvantable, faut le savoir. C'est peut-être même pour ça que le puceron n'ose pas venir. C'est à cause de l'odeur.
Nous non plus d'ailleurs.
C'est efficace.
D'accord. François, une dernière question. Il nous dit, suite à l'achat de graines de facélie, je voudrais savoir où l'on peut trouver des informations sérieuses sur la prolifération des plantes que l'on souhaite semer pour ne pas être envahi. Les informations sérieuses, c'est vous.
Alors, facélie, c'est une très jolie petite plante qui fleurit joliment bleue. Elle est considérée comme invasive. Encore faut-il ne pas jardiner. On la retourne. C'est un très bon engrais azoté pour la terre. Une plante n'est invasive que quand on la laisse proliférer. Les mimosas sont considérés comme invasifs. Dites-moi, bombe les mimosas sans mimosas, ça ressemblerait à quoi?
Ça serait plus une bombe les mimosas.
Ça serait triste.
Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup Alain Baraton, La Main Verte. Je vous dis à la semaine prochaine.
À samedi prochain,
avec des nouvelles questions des auditeurs. Merci à vous.